Alors, la rentrée parlementaire va se faire. L'assermentation du nouveau gouvernement, c'est prévu pour la semaine prochaine, donc dans une semaine exactement avec le nouveau Conseil des ministres.
Oui, puis il y a des... on voit des pas des nouvelles têtes, mais il y a des personnes qui vont occuper des nouvelles fonctions. C'est vrai pour les deux chefs intérimaires du Parti libéral du Québec et pour du Parti québécois, donc Pierre Arcan et Pascal Bérubé qui vont devenir chefs. La tradition veut que les chefs qui sont là, qui sont choisis comme intérimaires, ne fassent pas partie d'une éventuelle candidature à la chefferie. Dans le cas de Pierre Arcan, personne, je pense, s'imagine qu'il va revendiquer le poste de premier ministre dans une éventuelle course à la chefferie. Pour Pascal Bérubé, c'est autre. Plein de gens pensent qu'éventuellement, ça pourrait l'intéresser de devenir le chef du PQ.
Il a dit non hier. Moi, j'ai posé la question.
Il a dit non hier. Tu lui as parlé, ça. Ceci dit, peut-être que son nom signifie qu'il est prêt. En fait, j'y vois comme le signe qu'il serait prêt à passer un tour, sachant que ça va prendre du temps avant de réorganiser les forces cette prochaine candidature-là ne l'intéresse pas, mais qu'il se garde en réserve de la République pour un éventuel retour.
Toute façon, au PQ, tu sais, t'es chef pendant 18 mois. Fait que s'il passe son tour.
C'est toujours un intérim.
C'est ça.
C'est un peu cruel.
C'est pas loin d'être ça.
Mais il y a un peu de vrai. L'autre nomination intéressante, c'est là, la tradition ne joue pas. Sébastien Proulx, qui devient leader parlementaire. On le sait, il a déjà été pour la DQ. C'est un très bon leader parlementaire. Ça risque d'être intéressant comme position parce qu'il est efficace. Et ça ne le prive pas d'une éventuelle candidature à une course à la chefferie.
J'imagine que tu as été au Parlement en même temps que Sébastien Proulx, qui était à la DQ.
Oui.
Moi, c'est un des parlementaires les plus efficaces que j'ai vus. Et ce qui est impressionnant à l'époque, c'est qu'il était très jeune, pas beaucoup d'expérience, mais extrêmement éloquent, capable de poser des questions qui vont droit au but. Et si la nomination de Pierre Arcan comme chef intérimaire du PQ, du PLQ, pardon, montre que, tu sais, bon, on veut faire ça dans la sobriété, tu sais, c'est pas un enragé, M. Arcan. Sébastien Proulx non plus n'est pas un enragé, sauf que c'est un parlementaire qui peut être extrêmement combatif. Le signal qu'on envoie, c'est qu'on ne va pas faire de quartier avec le nouveau gouvernement. Pascal Bérubé, je pense que c'est une figure rassembleuse dans le parti. Moi, j'ai été surpris qu'il passe son tour, justement. J'ai été surpris que, vu l'état du parti, il envoie le signal que ça ne lui tentait pas, dans le fond, d'être le vrai chef, entre guillemets. Je pense que ça aurait fait une excellente candidature par ailleurs.
Ceci dit, on est étonné aussi que ce soit Pascal Bérubé et que ce soit pas M. Gaudreau, qui a quand même été leader parlementaire avec lui aussi une bonne efficacité, une bonne pertinence au moment où, en tout cas à différents moments là, récemment. L'autre différence, c'est que là, le PQ ayant gagné un siège, là, on l'a vu, un nouveau siège, sont maintenant la deuxième opposition officielle. Ils deviennent 10 députés, exactement comme Québec solidaire. Et là, la question va être intéressante. Est-ce que ces deux partis-là vont avoir, on va leur reconnaître le statut de parti officiel, c'est-à-dire leur donner les moyens de jouer leur rôle d'opposition, deuxième et troisième opposition. Et il y a des différences entre les deux. Vraiment, rendu troisième opposition, ton temps de parole est assez limité. C'est intéressant parce que ça pourrait être, pour la CAQ, un double signe. À la fois un signe de reconnaissance de l'importance des partis d'opposition et des centaines de milliers de personnes que ces partis-là représentent, donc des opinions fortes qui doivent être présentes à l'Assemblée nationale. Ça pourrait être en même temps une manière très élégante pour M. Legault de ne pas suivre sa promesse de faire un scrutin proportionnel, puisqu'en reconnaissant officiellement les deux partis d'opposition qui n'ont pas les nombres requis, il enverrait le signe qu'il est possible dans ce système-là, sans réforme du scrutin proportionnel...
T'es en train de nous dire, toi, que tu penses qu'il le fera pas?
Je suis en train de dire que ce serait élégant comme manière de dire, ben regardez, notre système fonctionne très bien puisqu'on reconnaît l'importance et l'opinion des gens. Est-il utile de bouleverser le système? Je dis ça. C'est une pensée machiavélique qui m'est venue, mais ça doit être juste.
J'ai les mêmes doutes que Pierre n'ose pas énoncer de façon claire. Oui, François Legault a signé le pacte là, selon lequel, si je suis élu, je vais pousser pour une réforme du scrutin. Ceci étant dit, tu peux porter ce projet de loi-là, puis à la fin, il y a plusieurs façons de tuer ton chien.
Ben, Justin Trudeau l'a fait.
Ben exactement.
Juste rappeler ça, là, pour les gens qui ont la mémoire courte, le Trudeau a promis une réforme du mode de scrutin, puis il nous a expliqué pas longtemps après être arrivé au pouvoir que ça se ferait pas.
Exact. Donc, tu peux trouver plein de défauts au projet qui va arriver, tu sais, et ne pas le faire adopter. C'est toi le gouvernement, c'est toi qui es aux commandes. Mais tu sais, tu disais, tu soulevais le rôle, Pierre, de Québec solidaire dans ce Parlement-là. Tu dis, et maintenant que le PQ vient de gagner deuxième opposition grâce au recomptage dans Gaspé, le Québec solidaire va avoir moins de temps de parole. C'est vrai? Sauf que moi, j'ai l'impression que Québec solidaire, oui, est content d'être au Parlement à 10, c'est vrai, mais ils vont jouer la game politique ailleurs qu'au Parlement et je pense qu'ils vont la jouer mieux que bien des partis. Ils ont déjà annoncé que pour la question des signes religieux, ils allaient faire la bataille, oui, à l'Assemblée nationale, mais ils ont dit qu'ils seraient dans la rue aussi. Mmh. Et je vous le dis, il n'y a pas de politicien plus éloquent que les solidaires. Donc, qu'ils aient peu de temps de parole à l'Assemblée nationale, je pense que pour eux, c'est vraiment pas une embûche de quelque forme que ce soit.
Ils vont jouer la game ailleurs. Quand tu dis qu'ils vont être dans la rue, là, ça veut dire quoi? Qu'on va les voir comme dimanche dernier avec ceux qui traitaient Québécois de racistes?
Moi, j'ai l'impression qu'ils vont être en train de manifester et de mener des manifestations.
Non, mais parce que là, Québec solidaire est allé chercher une clientèle qui n'était pas avec eux avant l'élection.
En effet.
Et là, tu t'imagines quoi? Gabriel Nadeau-Dubois, puis Manon Massé, puis les autres, dimanche dernier, en train de crier « Les Québécois sont racistes » avec tous ceux qui étaient là.
Je pense pas qu'ils vont crier ça.
Non, mais si tu cautionnes, c'était là.
Mais ils vont organiser, ils vont être aux avant-postes de ce qu'on appelle la société civile là-dessus. Je suis convaincu de ça. Et oublie pas un truc. Québec solidaire, pour moi, là, l'émergence de Québec solidaire, oui, ça part de l'union des forces de la gauche, tout ça. Ça part d'une bataille qu'on a faite à gauche au PQ. Mais ça part aussi du printemps érable. J'ai rencontré depuis un an ben des jeunes dont l'éducation politique a été le printemps érable, la contestation étudiante de 2012. Et une des racines actuelles de Québec solidaire, c'est là. C'est 2012. Ça, ils vont pas se priver d'aller dans la rue.
C'est heureux qu'il y ait une suite politique cette période-là. Et moi, je suis pas aussi certain que toi de là où ils vont aller, mais chose certaine, c'était aussi un des points, c'est ça va être intéressant de voir comment Québec solidaire s'organise et quelle est l'originalité de Québec solidaire dans ce contexte-là.
Merci, on vous retrouve demain, 8h56. On revient concernant la question des trains de banlieue, là.